Sécurité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir le film Hippocrate à l'occasion de sa sortie en DVD. Ce film raconte le travail d'interne en médecine à l'hôpital avec un jeune qui vient de terminer ses 6 années de médecine, commence l'internat, et un autre plus chevronné mais médecin à diplôme étranger qu'on appelle pudiquement faisant fonction d'interne. Médecins, infirmières, aides-soignantes se plaignent d'ailleurs du manque de moyens, manque de personnel, de lits d'hospitalisation, urgences débordées, gardes sans fin. Le quotidien du personnel soignant est difficile à la fois dans ce film et dans la vie réelle aussi en ce moment, que ce soit d'ailleurs en France ou ailleurs. Un sujet d'actualité donc, depuis quelques mois en France. Aujourd'hui, les médecins libéraux poursuivent leur mouvement de grève contre le projet de loi de santé de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Mes invités, vous l'avez compris, Thomas Litli, médecin, réalisateur, bonjour, du film Hippocrate, et le docteur Majid Siocine, bonjour. Gériatre à l'hôpital Saint-Camille de Bry-sur-Marne, et dont l'histoire a inspiré un des personnages du film, est également président de l'association de solidarité franco-algérienne. Et vous pouvez bien sûr, si vous avez envie de participer, nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Michael Benzaki, qui est interne en santé publique et médecine sociale au CHU Robert Debré à Reims et président de l'intersyndicat national des internes.
Vous en avez pas une sans tache?
C'est pas des taches, ça a été lavé, c'est des taches propres.
Là, t'as l'accueil, derrière, c'est le bureau des internes. C'est chez toi. 10 chambres, 18 patients.
18?
Vous inquiétez pas, c'est notre meilleur interne.
Attention, je vais piquer.
Alors, cette première semaine?
Je crois que je vais pas m'en assurer.
Voilà, sois pas trop sûr de toi. Tu commences, tu connais rien pour l'instant, alors quand tu sais pas, tu demandes.
C'est toi qui avais monsieur Lemoyne hier soir?
Oui, il y a un problème.
Il est décédé.
Mais je trouve pas le CG, du coup je me demande.
T'as qu'à fouiller dans les autres dossiers, je sais pas, il y est sûrement.
Le problème c'est que je l'ai déjà fait ça, de fouiller dans les autres dossiers, tu vois.
Franchement je suis pas fait pour ce métier, c'est pas possible.
C'est pas un métier, médecin. Une espèce de malédiction.
Thomas Litli, je vais essayer de pas écorcher votre nom tout au long de cette émission. Vous êtes médecin et réalisateur de cinéma. La médecine est-elle en crise? Parce que c'est un peu ce que vous montrez dans votre film.
Alors, la médecine, c'est compliqué, parce que la médecine, ça regroupe un champ très très large. Est-ce que l'hôpital public français est en crise? C'est peut-être une question à laquelle Hippocrate, le film, essaie de répondre modestement. En tout cas, essaie de faire un constat de certains dysfonctionnements. Ensuite, je pense que le système de l'hôpital public français est en crise. Je pense qu'en revanche, les gens qui y travaillent, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le film, que ce soit les médecins, les auxiliaires de soins, les infirmières, les aides-soignants, mais le personnel administratif, par contre, continuent à faire, pour le plus grand nombre, leur métier avec énormément de conviction et de volonté.
Donc l'hôpital public en crise, mais la médecine libérale aussi, qui est d'ailleurs en grève aujourd'hui. Et les médecins généralistes, vous êtes en fait médecin généraliste, vous faites des remplacements régulièrement. Si vous travailliez cette semaine, vous auriez été en grève ou pas?
Alors, c'est vrai que quand on est remplaçant, c'est particulier, parce que par définition, on remplace des médecins. Donc, si le médecin est en grève, on est obligé un peu de suivre le mouvement. Mais la médecine libérale, en tout cas, connaît des grandes difficultés, visiblement des grandes difficultés à se réformer, à changer sa façon de fonctionner. On sent que c'est compliqué, que c'est avec les pouvoirs publics. Moi, par rapport précisément à toutes les décisions de la réforme, à toutes les propositions de la réforme, il y a certaines propositions avec lesquelles je suis d'accord et d'autres avec lesquelles je suis en profond désaccord. Donc
la deuxième partie de l'émission, si vous le voulez bien. Docteur Majid Siocine, vous êtes d'accord ça, vous, la médecine est en crise, l'hôpital particulièrement, vous qui travaillez à l'hôpital. Approchez-vous du micro, je veux bien.
Je crois que quand ça va mal dans un pays, la santé c'est quand même souvent un bon reflet de l'état de santé du pays, si j'ose dire. L'hôpital est en crise, l'hôpital souffre, ça c'est certain. Parce qu'en moi, un peu plus de 15 ans de pratique hospitalière, j'ai vu l'hôpital changer. Le niveau d'exigence envers l'hôpital a augmenté, le niveau de recours à l'hôpital est plus important, la typologie des patients a beaucoup changé. Les patients aujourd'hui sont des patients qui sont plus lourds, qui sont plus malades, qui sont plus âgés, et ça, forcément, ça impacte la charge des soignants, en particulier les infirmières et les aides-soignantes. Ça impacte la charge de travail des urgences et des services de médecine qui sont rentrés... Il y a eu une révolution terrible à l'hôpital, ça a été quand même la prise en compte des coûts financiers. C'était une chose qui nous était totalement étrangère. Aujourd'hui, on est obligé de se préoccuper de ce que coûte notre hôpital, de nos budgets, de nos déficits, de ce que rapportent les malades. C'est des préoccupations qu'on ne maîtrisait pas du tout les médecins.
On l'entend d'ailleurs dans le film, et ça choque d'ailleurs le... Vous représentez, j'allais dire, le médecin étranger dans ce film, Abdel. Ça a un peu inspiré, votre histoire a un peu inspiré celle du film.
En partie, sans doute. C'est une question qu'il faudra poser au créateur du film. Mais effectivement, le parcours des médecins étrangers, Abdel le représente assez bien. Ça peut être une espèce d'icône de ce que peut être le parcours d'un médecin étranger.
Et justement, Thomas Litier, vous étiez en fait interne en même temps que le docteur Majid Siosine, c'est ça? Et c'est comme ça que vous êtes connu, et c'est comme ça que vous avez eu envie de faire dans les deux internes, un des deux, qui soit un médecin à diplôme étranger?
Oui, en tout cas, c'est vrai que l'histoire de Benjamin et d'Abdel dans le film est assez proche, peut avoir des ressemblances avec mon parcours et celui de Majid Siosine, puisque j'étais interne. Quand arrivant d'Algérie, Majid a pris un poste de faisant fonction d'interne dans le même service que moi, et on s'est rencontrés. Il avait beaucoup plus de connaissances et d'expérience que moi.
Ce que vous montrez dès le début du film, c'est qu'il en sait beaucoup plus que vous.
C'est plus que moi et un peu plus âgé que moi, donc il en savait aussi un peu plus sur la vie. Et puis voilà, c'est une amitié qui est née à l'intérieur des murs de l'hôpital. On s'est quasiment jamais croisé en dehors de l'hôpital, en dehors de d'aujourd'hui, par exemple.
Un interne, justement, c'est quoi? C'est un étudiant ou c'est un médecin à part entière?
Alors, c'est un étudiant, clairement. Il est étudiant, il a une carte d'étudiant. Et toute la difficulté est là, c'est-à-dire qu'il est étudiant en formation et en même temps, il a des vraies responsabilités puisque... Il a le droit de prescrire. C'est en ça la grande différence avec l'étudiant en médecine avant l'internat, c'est que l'interne fait des prescriptions. Alors tout ça, logiquement, sous l'œil de la hiérarchie et notamment du médecin supérieur.
Mais la hiérarchie n'est pas toujours là, c'est ça que vous montrez.
Et la hiérarchie n'est pas toujours là. Donc toute la difficulté est là, de la responsabilité.
Et alors le paradoxe, docteur Majid Siosine, c'est que ces médecins à diplôme étranger sont des ce qu'on appelle faisant fonction d'interne.
Alors en fait,
c'est-à-dire payer comme des internes.
C'est un peu plus complexe que ça.
C'est plus complexe. Alors en fait, il y a encore à l'hôpital tout une système parallèle calqué sur le système officiel. Le faisant fonction d'interne, c'était en fait un interne qui faisait pendant ces deux mois d'été remplacer un interne manquant dans un service. Et comme il a bien fallu trouver une étiquette pour ces gens qui arrivaient mais qui avaient pas de statut, on a calqué la hiérarchie hospitalière jusqu'à un certain niveau en créant les faisants fonction d'interne, les attachés associés et les assistants associés. Ça n'allait jamais au-delà et toute la distinction venait dans le terme d'associé.
Et c'est un des bons moyens de moins vous payer en fait, c'est ça.
Ça a été un moyen de recruter les gens, de leur donner un statut, de combler les vides parce qu'il fallait comprendre. Moi, quand j'avais été recruté à Garches, j'ai été recruté en tant qu'attaché associé sur un poste d'interne qui n'avait pas été pourvu au choix. Et ça a été un moyen de combler le véritable problème de l'hôpital et de la démographie médicale française. Ça a été l'erreur magnifique de gestion des technocrates qui n'ont
c'est-à-dire
pas
du numerus clausus qui était trop serré
et qui n'ont pas anticipé les départs à la retraite et la chute de la pyramide médicale qui a fait qu'on a eu besoin de ces médecins qui sont pas venus pour le plaisir de venir. Ils sont venus parce qu'on avait besoin d'eux et parce que eux aussi avaient besoin de venir.
Et vous, votre histoire, elle est un peu particulière parce qu'en fait, vous êtes né en France.
Ouais, ouais.
C'est ça, vous êtes français. Qu'est-ce que vous avez fait, vous?
Moi, je suis un personnage un peu hors norme.
Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, vous avez décidé de pas faire vos études de médecine en France?
Moi, j'ai décidé de rentrer, j'ai fait partie à cette génération qui était convaincue qu'il devait rentrer dans le pays d'origine et j'ai été
de ses parents, pays d'origine de ses parents, pas les vôtres.
Et donc, moi, j'avais été élevé pour rentrer en Algérie. Ma conviction, c'était que mon destin, c'était en Algérie. Donc j'ai été jusqu'au bout de mes convictions. Je suis rentré en Algérie et j'ai eu un parcours.
Vous avez fait vos études de médecine en Algérie.
J'ai vécu un certain nombre d'années en Algérie. J'ai fait mes études de médecine en Algérie. J'étais très heureux en Algérie. Et puis malheureusement, sont arrivés les tragiques années 90 et la guerre civile en Algérie et l'effondrement de tout un système, de tout un pays et l'absence d'espoir que les choses puissent changer. Il a fallu se résoudre à rentrer parce qu'il y avait à ce moment-là Il n'y avait pas d'avenir en Algérie.
Vous êtes rentré en France, mais là, vous êtes un médecin à diplôme étranger. C'est une situation tout en étant français. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il faut des années pour que votre diplôme soit reconnu ?
Oui, en fait, on était un certain nombre dans ce cas-là, parce que la France avait demandé aux Français de quitter l'Algérie. Donc, tous ceux qui sont revenus sont trouvés dans une espèce de double impasse. Ils étaient à la fois étrangers, à la fois français. Donc, ce qui était réservé, les possibilités d'accès aux formations ou processus d'intégration aux étrangers leur étaient fermées, puisqu'ils étaient français, et ce qu'il était ouvert aux Français leur était fermé puisqu'ils étaient étrangers. Donc il a fallu faire tout un petit parcours du combattant avec un certain nombre d'années de no man's land institutionnel pour trouver enfin une reconnaissance. Le temps moyen, c'est il faut 8 à 10 ans pour convertir son statut.
Et on voit dans ce film d'ailleurs ces médecins à diplôme étranger qui en ont marre. Oui, Thomas Lilti.
Oui, pour parler du paradoxe de Majid, moi je me souviens que quand il est arrivé dans le service, il y avait un énorme paradoxe. Nous, il manquait un interne dans ce service. On n'était pas assez nombreux parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants en médecine et voilà, il y avait un interne, un poste qui n'avait pas été pourvu. Donc, Majid, on avait trouvé Majid pour venir. Majid voulait travailler absolument et en gros, l'administration disait bah non, c'est pas possible parce que ça, il n'a pas les diplômes qu'il faut, etc. C'est trop compliqué. Donc, on était dans une situation où il y avait les médecins se battaient pour que Majid puisse travailler avec nous et puis il y avait toute la partie administrative qui luttait pour empêcher Majid de travailler. Donc, voilà, on se retrouve dans des paradoxes incroyables à l'hôpital public.
On va revenir justement sur tous ces paradoxes que vous montrez dans votre film. Aujourd'hui, on parle du film Hippocrate avec son réalisateur Thomas Lilti et le docteur Majid Siosine. Alors, Igor Strauss s'est rendu à l'hôpital Avicenne, à Bobiniste, en banlieue parisienne, dans le service des maladies infectieuses, le service du professeur Olivier Bouchot. Il a suivi deux aides-soignantes pour commencer, Sonia et sa collègue, lors d'une journée de travail ordinaire. Elles nous racontent leurs difficultés. En gros, comment faire toujours plus avec de moins en moins de personnel.
Vous avez passé une bonne nuit ?
Dormi.
Vous avez dormi, vous n'avez pas eu mal quelque part? Bon, ben voilà, donc je suis Sonia, je suis soignante de jour. Ben là, on s'apprête à aller faire une toilette à un patient.
Qu'est-ce qui se passe?
Nous, les soignants, on passe comme si nous étions invisibles. Alors que franchement, il y a de quoi faire. Quoi. Comme là, par exemple, on vient de terminer les toilettes, on doit enchaîner pour installer les matelas, voilà. Alors qu'il faut être à trois pour installer les matelas. On est sollicité, on n'a même pas le temps de se poser, même pas cinq minutes, c'est comme ça tous les jours.
Et on vous demande de mettre des matelas anti-escarres, c'est ça les fameux matelas qui sont arrivés?
Voilà.
Vous savez, on est deux aides-soignantes pour 22 malades. Le matin, on les prépare pour le bloc. Si ce n'est pas pour le bloc, c'est pour les nursing. Ils doivent être installés au fauteuil. Il y a des aides au repas. Il y a quand même combien de patients faire manger? Sur les 22, il y en a 5, c'est ça?
On rase les chambres pour la vaisselle. Là, on enchaîne pour installer les matelas.
Ah, c'est vous qui faites la vaisselle après?
Ah oui,
il y a pas de chambre parce qu'il faut servir et débarrasser. Ça veut dire qu'on arrête les toilettes pour servir et débarrasser.
Mais ça, en temps normal, il y a un agent avec vous pour vous aider?
Non, là non, depuis 2 ans.
On a une collègue d'ailleurs qui est CDI il n'y a pas longtemps, il y a un an, et elle est en accident du travail. Moi personnellement, j'en sors d'un accident de travail.
Vous avez eu quoi vous?
Une tendinite. Prendre des gros sacs de linge pour les virer dans des grands chariots. J'étais toute seule ce jour-là à le faire et j'ai fait une tendinite, ça m'a fait 3 semaines d'accident de travail.
On a le magasin, on a les cartons à soulever, à ranger, le matériel à ranger. En plus, il y a les sortants à faire, c'est-à-dire désinfection des chambres. Voilà.
On n'a pas le temps du tout de passer dans les chambres.
Et là, patients et de la maltraitance pour le personnel. Hein. Moi, j'ai dit ça.
Ah, c'est carrément de la maltraitance pour vous.
Des deux côtés.
Mais les aides-soignants ne sont pas vraiment reconnus, je vous assure.
Mais comment vous expliquez ça?
Et ben, en fait, quand vous regardez, par exemple, les infos ou bien l'actualité, vous voyez qu'on parle des infirmières. Les aides-soignants, on ne connaît pas trop. Hein. Même si un policier vous arrête, vous faites quelle fonction? Je travaille à la santé publique, vous faites quoi? Vous êtes infirmière? Non, je suis aide-soignante. Des fois, ils ne savent pas ce que c'est. C'est vraiment c'est grave. Hein. Moi, ça me fait mal parce que je me dis quand même, on a une place assez importante. C'est une chaîne. On est un des maillons importants de la chaîne. Bon, comme là, vous voyez, on est obligé d'aller chercher le lève-malade. C'est un patient qui donne des coups. Alors aussi, on a des patients qui sont très durs. Comme là, le monsieur, il veut pas se laisser faire. Alors, c'est du combat, on est obligé de l'attacher, il nous donne des coups de poing, ben, ça aussi.
Ah, hein.
On fait avec.
1, 2, 3.
Ça fait combien de temps que vous êtes aide-soignante, vous?
L'an 2000, 14 ans.
Et en 14 ans, est-ce que vous pensez que vos conditions de travail, enfin la condition de travail des aides-soignantes, a évolué?
Comment vous... Là, c'est la dégringolade. C'est la dégringolade. Là, franchement, normalement, quand on passe dans une chambre, la moindre des choses, c'est qu'on a un petit dialogue avec le patient, un petit échange. On n'a même pas le temps. Une fois le patient a besoin de s'exprimer, on peut à peine l'écouter. Des fois, on a mal parce qu'on n'a pas pu même les raser. Et ça, c'est pas possible. Et quand on arrive chez nous, on est fracassé, on a mal au dos, on ne peut plus rien faire. C'est ça la vie maintenant.
Comment vous l'expliquez ça, cette dégringolade, comme vous l'avez qualifiée?
Le manque de personnel, je ne sais pas ce qui se passe. Les retraités ne sont pas remplacés. Les CDI, il y a des CDI qui partent de l'hôpital, ne sont pas remplacés. Non, là, franchement, je ne comprends pas. J'ai l'impression que je suis dans un bateau, le Titanic, quoi. Sincèrement, pour moi, c'est le Titanic.
Priorité santé sur RFI.
Dans votre film Hippocrate, vous ne parlez pas que des médecins, vous parlez aussi justement, on voit bien les infirmières qui en ont marre, les aides-soignantes aussi, on l'entend. Vous sentez une dégradation sur toutes ces années?
Oui, alors moi, c'est vrai que je suis plus à l'hôpital depuis quelque temps, donc je suis pas le mieux placé, mais déjà, quand j'étais interne, je trouvais que la situation des infirmières, des aides-soignants, du personnel administratif était compliquée. Les aides-soignantes, on l'entend bien dans le reportage, qui est extrêmement touchant, et je crois assez fidèle à la réalité, que quand c'est un témoignage qui, à mon avis, représente bien l'ensemble des aides-soignants. C'est vrai que c'est un métier éprouvant, compliqué, mal considéré, presque inconnu. Et qui est un métier essentiel dans la démarche de soins. C'est ça qu'on a tendance à oublier. C'est pas juste des jeunes femmes, des femmes, des hommes qui nettoient les patients. C'est-à-dire que c'est un contact, c'est le contact physique avec le patient. C'est essentiel. Moi, ce sont des gens pour qui j'ai énormément de considération et j'espère que dans Hippocrate, et je crois que dans Hippocrate, j'ai montré en tout cas combien leur métier était essentiel et important.
À un moment, vos infirmières sont en grève d'ailleurs.
Elles essayent un petit peu de se faire.
Ils ont juste
oui,
la
c'est
blouse
ça aussi,
avec écrit
hein.
En grève.
C'est à la grève à l'hôpital, on marque en grève sur sa blouse et on travaille en
général. C'est pas comme à la radio où on coupe l'antenne, on peut le dire. On a été bien placés pour le savoir. Docteur Magid, c'est aussi justement ce que vous venez d'entendre sur les aides-soignantes, ça correspond un peu à ce que vous voyez dans votre hôpital à Saint-Camille-de-Brie-sur-Marne.
Oui, tout à fait. Alors, les aides-soignantes sont victimes du syndrome du bas de l'échelle, finalement, parce que ils sont en bas de l'échelle, pas en mesure de se défendre. Moi, c'est un métier qui est plus que éprouvant, c'est un métier qui est usant. Moi, je conçois pas une carrière d'aide-soignante. À mon avis, ça ne devrait être qu'une passerelle. On devrait pouvoir accéder au métier de la santé pour ceux qui ont le moins de diplômes par le biais de la profession d'aide-soignant, et ensuite prévoir un changement, une filière. Il faut qu'il y ait une validation des acquis de l'expérience pour faire autre chose. Je vois pas comment une jeune femme rentrée à 20 ans ou un jeune homme rentré à 25 ans comme aide-soignant dans un service de gériatrie pourra y faire toute sa carrière. C'est physiquement c'est totalement impossible. Les patients sont lourds, on entend très bien le reportage, les patients sont âgés, déments, il y a des escarres, il y a la mort, il y a le caractère pénible. C'est impossible physiquement
douleur,
de tenir toute
entend,
sa vie. Ouais.
La douleur, le patient avoir mal, c'est très douloureux.
Et en dehors des souffrances physiques, il y a l'éprouvement moral d'être au contact en permanence de ça. Quand le quotidien de quelqu'un, c'est de voir ça tous les jours, c'est pas possible de faire ça toute sa vie.
Donc il y a un manque de personnel qui est dénoncé aussi dans le film. Hein. Et dans le film, on voit d'abord, je crois, la pompe à morphine qui est cassée, puis l'électrocardiogramme qui fonctionne pas. Est-ce que c'est aussi dramatique en ce moment à l'hôpital? Est-ce que ça, quand même, ça donne une situation apocalyptique?
Non, fort heureusement.
Il est un peu exagéré.
c'est aussi l'utilisation d'événements qui peuvent exister à l'hôpital, ramassés à l'échelle d'un film d'une heure et demie, pour amener aussi la dimension romanesque du film, etc. Évidemment, mais un électrocardiogramme qui marche pas un soir, ça m'est déjà arrivé. C'est pas exceptionnel.
Il y a toujours des dysfonctionnements. Heureusement, ils sont moins fréquents que ça. Ce qui est le vrai problème, moi, je pense quand même de l'hôpital public, c'est qu'on lui en a demandé de plus en plus au fur et à mesure des années. C'est qu'il y a un mouvement constant de fermeture des lits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, hospitaliser un malade, c'est un problème. Faire sortir un malade en soins de suite, c'est un problème.
Ça, on le voit très bien dans le film.
Moi, je travaille dans un service qui est essentiellement l'aval d'un service des urgences. On absorbe des patients en provenance des urgences. Et notre combat quotidien, dimanche et férié compris, c'est de trouver des lits, de faire sortir les malades et comment les faire sortir. Ce qui peut même amener parfois à des frictions avec les familles qui comprennent pas, ou on se débarrasse, entre guillemets, des gens. Mais le problème, c'est qu'il y a une pression en dessous.
C'est compliqué. On y revient, si vous voulez bien, dans la deuxième partie de cette émission. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé.
Père aidant.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du film Hippocrate qui sort en DVD et raconte le quotidien des médecins à l'hôpital. On en parle avec son réalisateur, Thomas Lilti, qui est médecin, donc est réalisateur et cinéaste. Et le docteur Majid Siocine, gériatre à l'hôpital Saint-Camille à Brie-sur-Marne et dont l'histoire en fait a inspiré un des personnages du film. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Nous avons au téléphone Michael Benzaki, qui est interne en santé publique et médecine sociale au CHU Robert Debré à Reims, président de l'intersyndicat national des internes. Michael Benzaki, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je dois dire docteur Michael Benzaki d'ailleurs? J'étais en train de me poser cette question. Ou pas encore, quand
non,
vous êtes interne.
Pas encore.
C'est ça, pas encore.
Pas encore.
Vous connaissez...
Quelques semaines pour faire ma thèse.
Voilà, c'est ça, d'accord. Vous êtes au bout. Hein. Vous êtes en ce qu'on appelle en 9e année, en 3e année d'internat, donc à la fin de l'internat. Vous connaissez Thomas Lilti, le docteur Majid Siocine aussi. Vous avez fait... vous avez vu ce film, je crois même que vous l'avez vu de très nombreuses fois.
Oui, effectivement, l'ISNI, donc l'intersyndicat national des internes, était partenaire du film Hippocrate, c'est-à-dire que nous, on est toujours très sensibles à ce qu'on puisse diffuser au grand public le message et le quotidien finalement des internes, et c'était naturellement qu'on était associé à la sortie de ce film quand il était sorti en salle en France.
Et vous vous retrouvez justement dans le portrait du jeune interne, là, de Benjamin, qui d'ailleurs en plus a l'air un peu d'avoir 15 ans, si je puis me permettre.
Oui, effectivement. Alors ça accroît un petit peu le choc entre les responsabilités des internes et la maturité qu'on doit acquérir. Oui, on se reconnaît, hein, tout interne et tout étudiant en médecine ou interne ou jeune médecin se reconnaît dans ce film. C'est l'histoire de la tâche propre qu'on voit un petit peu au début quand l'interne arrive à l'hôpital et qu'on lui donne sa blouse et on lui dit voilà, non, vous inquiétez pas, ce sont des tâches propres.
Parce qu'elle est tachée, la blouse.
Parce que la blouse est tachée, effectivement. Ce sont des anecdotes, mais qui parle effectivement aux médecins, aux jeunes médecins, et on voit très bien que Thomas Lilti est passé par là. Alors après, il s'agit d'un film, hein, donc c'est condensé sur quelques heures, et c'est condensé tout l'internat et tout le parcours d'un interne.
Et alors justement, dès le début du film, il y a la question d'une erreur médicale. Est-ce que c'est une peur qui est très présente chez les jeunes internes? J'imagine tout au long de la carrière, mais particulièrement quand on démarre et qu'en gros, on ne sait pas grand-chose.
Ben vous savez, la difficulté, c'est qu'on part d'une base, on est étudiant en médecine avant de passer les ECN, donc l'ancien concours de l'internat, et en quelques semaines, on se retrouve en première ligne, directement en quasi pleine autonomie, même si on doit être sous la responsabilité d'un senior, avec toutes ces responsabilités qui arrivent d'un coup. Le même niveau de connaissance quelques semaines avant pour passer l'épreuve, et on se retrouve en première ligne. Donc oui, la peur de commettre des erreurs existe, elle est présente. Maintenant, il faut faire avec et on apprend. La difficulté est d'être correctement encadré.
Et ça vous est arrivé de faire des erreurs
tous les jours? Alors, les erreurs, heureusement, on fait quelques petites bourdes qui se voient pas forcément, qui sont pas néfastes, où on oublie de signer des prescriptions en termes de fatigue, ça revient de façon récurrente. Mais derrière, heureusement, il n'y a pas d'erreur très grave. La difficulté, c'est pendant les heures de grande fatigue, vous savez, le lendemain des gardes, par exemple, quand il n'y a pas de repos de sécurité, les internes peuvent faire des erreurs parce qu'ils sont extrêmement fatigués. Et on le voit dans le film très bien, où vous avez en pleine nuit l'interne qui va faire des erreurs, hein, une réanimation d'une patiente, qui va faire des erreurs parce que justement il est fatigué et surtout il est seul. Et la solitude de l'interne en garde est quelque chose de dramatique. Il devrait y avoir un senior en permanence et c'est une situation qu'on ne devrait pas retrouver, mais malheureusement qu'on retrouve dans les établissements publics en France.
Je voudrais faire réagir Dr Majid Siocine sur cette question d'erreur médicale. J'ai l'impression que vous faisiez un geste disant que ça vous est arrivé.
J'en suis pas particulièrement fier, mais l'histoire du film, sans que Thomas le sache, moi je suis une parfaite illustration. Interne, premier semestre, première garde, où je vois un vieux monsieur qui avait des nausées et des vomissements, qui me balbutiait des vagues explications et dont j'ai pas pris en compte réellement la réalité. Et je lui fais une prescription d'antiémétique et trois jours plus tard pour les vomissements.
Ouais.
Et trois jours plus tard, son fils vient me voir. J'étais de nouveau de garde. Il me dit écoutez, je ne vous en veux pas, mais mon père est mort. J'ai jamais oublié ce monsieur.
Et c'est mort d'une crise cardiaque.
Je pense qu'il est mort d'un infarctus du territoire inférieur, probablement.
Thomas Liltige, ça vous est arrivé aussi pour raconter ça dès le début du film ?
Oui, alors bien sûr, mais moi, ce qui m'intéressait au-delà de l'erreur médicale, c'était de raconter comment finalement aussi le secret qu'on retrouve à l'hôpital et ce sentiment d'impunité qui est provoqué par le fait que la hiérarchie va avoir tendance à protéger l'interne, peut-être à juste titre, mais en tout cas comment cette impunité va décupler le sentiment de culpabilité. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est surtout ça le thème qui était au cœur du film.
Plus que l'erreur en elle-même. Michael Benzaki, vous parliez de fatigue. D'ailleurs, vous travaillez combien d'heures par semaine en tant qu'interne ?
Alors, globalement, les internes travaillent en moyenne 60 heures par semaine. C'est une étude de l'ISNI qui était parue en 2012. Ça va jusqu'à 90 heures par semaine pour les internes de chirurgie, donc sur des niveaux très, très élevés. Et le risque d'erreur est d'autant plus important qu'on cumule les heures et qu'il n'y a pas de repos de sécurité derrière.
Et combien de gardes, combien de nuits passées à l'hôpital par semaine ?
Alors, normalement, on doit avoir un service de garde d'une garde par semaine. Et puis, nous avons souvent, la plupart du temps, plusieurs gardes par semaine et souvent des gardes au week-end.
Vous aviez fait grève en novembre. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez obtenu et qu'est-ce que vous continuez à demander aujourd'hui ?
Alors, la question au mois de novembre était sur le temps de travail. Et puis, c'est une question justement qui est récurrente sur le temps de travail et la qualité de formation.
Et sur le repos de sécurité aussi, hein, c'est ça ?
Et notamment sur le repos de sécurité, hein, qui n'est toujours pas respecté dans près d'un cas sur cinq, voire dans 70% des cas pour les internes de chirurgie, ce qui est dramatique. Hein. On a vu, on avait fait une étude sur le sujet en disant que ça augmente le risque d'erreur médicale, et en termes de formation, c'est catastrophique. Donc derrière, il faut bien voir que il y a une contrainte au niveau de l'Union européenne de réduire le temps de travail des internes à 48 heures. Le texte qui avait été proposé par le ministère de la Santé n'était pas applicable en l'état. Il est très difficile de mettre en application ce texte et nous travaillons toujours avec le ministère de la Santé pour améliorer ce texte et améliorer la qualité de la formation des internes et leur temps de travail. Mais la difficulté est que le climat actuel autour du ministère de la Santé est très très contraint et puis des différentes dispositions sur le temps de travail, sur la réforme, sur la loi de santé en cours est extrêmement inquiétant.
Et justement, qu'est-ce que vous pensez de cette loi de santé en cours ?
Bah, écoutez, tout simplement, la loi de santé n'a pas pris en compte les enjeux majeur de notre système de santé. La loi de santé actuelle n'a pas été rédigée en concertation avec les professionnels de santé. Donc forcément, on a un texte qui est complètement inepte. Et c'est pour ça que les internes, notamment, se mobilisent et vont relancer une mobilisation assez forte.
Complètement inepte, vous dites, vous pensez pas qu'il y a des choses intéressantes dans cette réforme ?
Non, mais si vous voulez, c'est des petites choses à la marge. Enfin, c'est-à-dire, un texte de loi qui est technocratique. C'est-à-dire, ça a été fait par des personnes qui ne connaissent pas le quotidien des professionnels de santé. Donc, c'est pas une loi. Enfin, c'est-à-dire que on attend du ministre qu'il ait une vision, qu'il ait une volonté de réformer le système de santé. Quand on parle de réforme révolution du premier recours, on en est encore bien loin. Comment est-ce qu'on rend attractif les territoires ? Comment est-ce qu'on rend attractif l'activité libérale des jeunes médecins. Dans cette loi, on a tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'on a des mesures pseudo-coercitives à l'installation, on a des mesures sur le tiers payant généralisé qui vont alourdir de façon dramatique le quotidien administratif des jeunes médecins qui n'ont plus du tout envie de s'installer.
Alors, dans ces conditions. Vous savez juste quand même que c'est pas ce que disent des médecins qui déjà le pratiquent, hein, et qui disent que en fait ça fonctionne très bien. Je pense entre autres au docteur Maddy de Nantes, médecin généraliste installé à Paris et qui dit qu'au contraire c'est une bonne chose. Donc il y a quand même des médecins qui considèrent que ce tiers payant est une bonne chose. Vous contestez
une bonne chose. Oui. Le tiers payant est une bonne chose. Le fait de qu'il soit obligatoirement généralisé porte est source de difficultés pour les médecins. C'est-à-dire que vous avez 30% de l'activité médicale qui est embolisée, pour parler en termes médicaux, par les tâches administratives. C'est-à-dire qu'il y a 30% de temps médical en moins sur le territoire. Et ça, ce n'est pas possible. Le principe du tiers payant, évidemment, c'est un bon principe. Il faut qu'il y ait un reste à charge le moindre possible. Mais derrière, comment est-ce qu'on met en œuvre ? Ce n'est pas pratique. Derrière, également, se pose la question sur le tiers payant généralisé, la question du masquage des coûts pour les assurés.
Je vais faire réagir mes invités sur cette question du tiers payant, docteur Majid Siocine.
Enfin, le tiers payant, c'est sans doute une très bonne mesure pour les praticiens du secteur 2, surtout. Ceux qui ont des honoraires en dehors de la convention qui peuvent être extrêmement importants. En revanche, c'est peut-être plus discutable pour ceux qui sont dans le cadre conventionnel. Et bon, et le danger sous-jacent, c'est aussi la déréalisation. Ça, on peut pas en faire la passe. C'est la déréalisation que représente le tiers payant du coût de la santé. C'est vrai que pour la plupart des gens, quand on explique...
Je ne savais pas que c'est un mythe, ça. Franchement,
c'est la réalité, malheureusement. Parce que moi-même, je l'ai vécu pour... Moi, je suis asthmatique et j'avais l'habitude de prendre un produit que je ne citerai pas. Et un jour, je n'avais pas ma carte vitale. Donc, je me suis fait une ordonnance, je l'ai acheté. Le jour où je me suis rendu compte que la bonbonne coûtait 80 euros, ça m'a fait bizarre. Pourtant, je suis médecin. Donc, il y a quand même ce risque-là. Mais il est vrai que le vrai problème, ce dont on parle du tiers payant, etc., mais le vrai problème, c'est l'accès aux soins. Aujourd'hui, moi, ce qui me révolte, c'est qu'on se retrouve dans une situation de pays que je connais bien, l'Algérie ou l'Afrique. Dans certains endroits, l'accès aux médecins n'est plus réalisé ou réalisable. Et c'est ça le réel problème du... On a toujours dit que notre système était le système le premier au monde, mais c'est dans l'accès aux soins. Et c'est là où il y a un problème. Et l'accès, c'est la disponibilité d'un médecin.
Les médecins sont aussi responsables. Mais donc, ça veut dire revenir sur la liberté d'installation. Sur la liberté d'installation.
C'est un débat qui doit être mené. Les médecins sont aussi responsables puisqu'ils se sont, par exemple, détachés du service de la garde. Et moi, j'ai fait médecine, je savais que je ferais des gardes. Et si on m'impose de faire des gardes, je ne serais pas choqué, ça va avec le package. Alors, il ne faut pas que ce soit trop pénible non plus, mais il y a aussi une part de responsabilité du médecin.
C'est vraiment un des vrais problèmes. Moi, je rejoins Majid Siocine. Le vrai problème, c'est... un des problèmes majeurs, c'est qu'on on forme des médecins relativement peu. Et le problème, c'est que on ne sait pas comment faire, les pouvoirs publics ne savent pas comment faire pour que ces médecins travaillent là où on a le plus besoin d'eux. Que ce soit à l'hôpital public,
d'ailleurs,
qui est relativement déserté, ou que ce soit dans qu'ils aillent s'installer dans des régions dépourvues de médecins, les fameux déserts médicaux, qui sont pas obligatoirement des milieux ruraux désertiques, qui peuvent être la Seine-Saint-Denis ou des banlieues de grandes villes.
Et ça, c'est la difficulté, si vous voulez, c'est qu'on a des études
Michael Benzaki.
On a des études de médecine qui sont hospitalo-centrées, c'est-à-dire qu'on est formé uniquement à une prise en charge hospitalière. Et effectivement, vous avez raison, il y a une problématique sur l'installation. Les jeunes médecins ne sont pas aptes, ne sont pas formés à aller s'installer directement après leur internat. Et là, il y a un vrai problème. Il y a un hospitalo-centrisme à outrance de notre formation, de plus en plus. Il faut ouvrir les terrains de stage pour les jeunes, pour les étudiants et pour les internes à l'ambulatoire en libéral. Et nous avons également une proposition que nous faisons à l'ISMI, qui est la création d'une spécialité de médecine ambulatoire de premier cours. C'est-à-dire d'ouvrir les postes d'internes majoritairement vers des postes de super médecin généraliste, vers l'ambulatoire, qui aurait une formation adéquate en 4 ans, avec une véritable formation de premier recours.
Et vous continuez à défendre la liberté d'installation, alors qu'on sait qu'il y a des déserts médicaux, qu'il y a des manques à certains endroits, qu'accessoirement vos études de médecine sont intégralement payés par l'État, que le système de remboursement de sécurité sociale fait quand même qu'une partie de la façon dont vous êtes financé revient de l'État, et vous continuez à défendre l'idée que vous pouvez vous installer où vous voulez, quand vous voulez.
Mais la difficulté sur la liberté d'installation, c'est que c'est le dogme du yaka faucon. C'est-à-dire que ça, c'est les politiques ou globalement un message simpliste en disant il suffit d'obliger les personnes à s'installer dans tel territoire. Ça ne fonctionne pas. Regardez ailleurs ce qui se passe, ailleurs en Europe, ailleurs dans le monde, la coercition ne fonctionne pas. Il faut inciter. Et le dogme, si vous voulez, de dire où la vision d'Épinal du médecin qui arrive avec sa femme dans un territoire, la femme fait le secrétariat.
C'est fini, on est d'accord.
Ça n'existe plus. Maintenant,
il y a plus de la moitié des étudiants en médecine sont des femmes.
Oui, c'est ça en plus.
Exactement, qui veulent s'installer.
Et leur mari ne va pas faire secrétariat.
Leur conjoint ou leur conjointe ne fera pas de secrétariat et voudra un emploi. fois dans le bassin dans lequel le médecin ou homme ou femme sera installé. Voilà. Et il y a ces problématiques-là à prendre en compte. La coercition ne fonctionne pas nulle part. C'est une proposition un petit peu simpliste et yaka faucon traditionnelle, mais ça ne fonctionne pas.
Merci beaucoup, hein, Michael Benzaki. Hein, je rappelle que vous êtes président de l'intersyndicat national des internes. On reviendra plus longuement sur cette loi de santé proposée par Marisol Touraine dans 15 jours. Et on continue à parler de ce film Hippocrate avec Thomas Lilti, qui est médecin et donc réalisateur de ce film, et le docteur Majid Siocine. Je propose de retrouver là Igor Strauss à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Il a rencontré le docteur Berdahi, interne dans le service des maladies infectieuses, et le docteur Frédéric Bideguin, qui est chef de clinique.
Bonjour, donc là on est lundi, on fait le point un peu sur ce qui s'est passé ce week-end. On a pris les transmissions comme on n'était pas là. Dans le service, il y a 22 lits. Alors normalement on est deux internes de chaque côté, mais en ce moment on est une de chaque côté, donc ça fait un peu plus de travail que d'habitude, mais on
se passe deux fois plus en fait.
Voilà, c'est ça. Bon, les journées on est à deux, c'est on n'a pas l'habitude, mais ça s'est déjà fait avant.
Et comment vous l'expliquez, ça c'est courant de se retrouver à deux au lieu de quatre ou...
C'est parce que on a des repos de garde. Ma collègue était de garde dimanche soir, donc dans la nuit jusqu'à ce matin, donc elle est pas là aujourd'hui. Il y a des petits roulements comme ça. Donc on doit s'adapter aux absences et aux présences, mais en général ça se passe bien.
Oui, Frédéric Bideguin, je suis chef de clinique dans ce service. Ici au niveau médical, nous sommes suffisamment de personnel par rapport à d'autres services. C'est surtout au niveau paramédical qu'il y a des problèmes en fait. Parce que d'abord il y a des problèmes pour avoir des aides-soignantes, il y a un manque d'aides-soignantes, ce qui est pourtant la base du système puisque les patients ont besoin de soins, ils sont parfois pas autonomes, ils ont besoin d'aide pour la toilette, et ce qui fait que surtout au niveau paramédical c'est très lourd. Ensuite, c'est tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire qu'on ressent depuis quelques années des coupes budgétaires avec une diminution notamment des secrétaires, donc le travail administratif au niveau médical augmente. C'est des petites choses qui finalement retombent sur l'équipe aussi paramédicale et qui fait que la charge de travail pour les infirmières, elles n'ont plus toujours le temps de rester avec les patients parce qu'elles doivent s'occuper aussi de commander une ambulance, de voir d'autres choses qui normalement seraient faites par une autre personne mais qui n'est pas toujours le cas.
Alors justement, quelles sont les répercussions sur les patients ?
Pour le patient, je pense qu'on fait tout, si vous voulez, pour qu'il n'y ait pas de conséquences. Après, il y a d'autres répercussions parce que il manque de soins de suite, il manque de lits en aval. Donc on a du mal parfois à trouver des places pour des patients qui ont besoin d'une maison de convalescence avant de pouvoir rentrer à domicile. Il y a aussi en amont un engorgement des urgences avec des délais d'attente pour venir dans le service d'hospitalisation qui sont augmentés, des gens qui passent deux jours aux urgences.
Alors, on peut passer deux jours aux urgences, faute de place.
Pas uniquement faute de place, mais oui, effectivement.
Oui, bonjour, je suis un peu dans la maladie infectieuse.
Ouais, est-ce que vous pensez qu'il pourrait être pris ou pas ? Ok, d'accord, très bien. Merci, je la faxe tout de suite.
Ça va, ça va bien ?
Ouais, bon là concrètement, c'est un exemple d'un manque de personnel. Parce que je dois quitter ma visite pour descendre un patient en examen, parce qu'il n'y a pas de brancardier.
Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de brancardier ?
Ben, je sais pas. Mais voilà, mais si on n'y va pas, le patient n'aura pas son examen, donc il faut y aller. Donc on va perdre beaucoup de temps sur notre matinée, après on aura un staff, et moi je vais pas connaître mes patients, parce que j'aurai pas eu le temps de les voir, mais bon, il faut.
Quand vous dites un staff, c'est la réunion du staff.
En fait, le lundi, tous les lundis à 14h, on a un staff avec les infirmiers ici, et on parle donc des patients, parce qu'il y a eu beaucoup d'entrées et de sorties le week-end, donc on fait un peu le point. Et moi je suis censée faire le point donc le matin, là, avant le staff, donc... Voilà.
Si je comprends bien, en fait, dans ce reportage, le jeune interne ou la jeune interne devient brancardier. C'est ça l'idée. Ce sont des choses qui arrivent.
Oui, ça arrive tout le temps. Moi, j'avais une anecdote assez rigolote. En deux secondes, pour faire vite, c'est un chirurgien qui un jour justement est allé faire le brancardier parce que le patient n'arrivait pas. Il y avait personne pour le
descendre.
Il allait chercher. Donc ça, c'est drôle. Et quatre ans plus tard, il se retrouve à sortir du bloc opératoire en tenue de chirurgien. Et ce patient en question était avec de la famille en salle d'attente. Il a dit « Vous avez vu le brancardier ? Il est devenu chirurgien. » Voilà. Donc c'est vrai, ça arrive tout le temps.
Du coup, le patient, effectivement, il comprend pas bien. Et dans ce reportage, on entend le médecin dire, mais finalement, ça n'a pas de répercussion sur le malade. Ce que vous montrez dans ce film, Thomas Lilti, c'est plutôt le contraire. C'est que ce manque de moyens a des répercussions sur les malades.
Bien sûr. Mais évidemment, évidemment. C'est tout le problème est là, parce que si ça avait pas de répercussions sur le malade, ce serait pas si grave. Si c'était juste le confort du personnel, bon, ce serait une chose. Mais non, ça a des, le vrai risque aujourd'hui, c'est qu'il y a que la qualité du soin baisse en France.
Vous êtes d'accord avec ça? Non,
moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Aussi. Enfin, on peut quand même pas imaginer que quand il y a des moyens en moins, il y a pas de répercussions sur le malade. Ça, c'est un discours politiquement correct.
C'est quoi les médecins dans ces cas-là? Ils osent pas dénoncer?
C'est toujours très gênant de dire que ça va pas, de dire que c'est très difficile d'admettre ça quand même. C'est une souffrance pour le personnel, c'est une souffrance. Quand les malades sont pas rasés correctement, quand ils sont pas lavés, quand il y a pas assez de gens pour leur donner à manger, bien sûr qu'il y a une répercussion sur le malade. Quand il faut attendre pour obtenir un examen, bien sûr qu'il y a une répercussion sur le malade. C'est naturel. Le danger, oui, c'est un risque. Il y a deux risques pour l'hôpital. Le premier, et on est déjà dedans, c'est la dégradation. Ça peut être la dégradation de la qualité des soins. Et le second, qui à mon avis vient juste derrière, c'est le risque de déshumanisation. On va commencer à envisager les malades comme des objets qui doivent aller dans des filières, qui doivent rapporter certaines choses, qui doivent rester un temps donné dans un service, puis passer ailleurs. Et là, on sort d'une analyse humaine du malade. On rentre dans une analyse de filière, plus dans une logique de logistique, comme on parlerait de gestion de la plateforme.
De petits pois.
Voilà, de Carrefour ou de je ne sais quoi. C'est ça le danger. Et que les médecins et les infirmiers et les aides-soignants deviennent des techniciens et non plus des soignants. Ça, c'est le plus grand danger.
Thomas Lilti, justement, comment le personnel soignant a perçu votre film Hippocrate? Est-ce qu'ils ont été contents de ce que vous dénonciez ou inquiets?
De façon très générale et relativement globale, le film a été extrêmement bien accueilli. En tout cas, il a suscité beaucoup de curiosité du personnel médical. Très bien accueilli dans toutes les avant-premières que j'ai pu faire, les retours que j'ai eus du personnel soignant, des infirmières, des aides-soignants, des médecins, des internes, étaient extrêmement positifs. Il y a eu une toute petite catégorie de médecins qui ont pu me reprocher essentiellement quoi ? Deux choses. Premièrement, l'épisode de réanimation abusive sur Madame Richard et les réanimateurs se sont sentis un peu blessés. Alors que bon,
genre, ça a un peu l'impression que ce sont des bourrins qui réaniment quoi qu'il arrive,
voilà,
c'est ça?
Alors que bon, moi, c'est vrai que je décrivais un cas particulier pour éclairer sur l'impuissance du jeune interne. Je l'admets que j'ai un peu poussé le curseur. Par souci de romanesque. Et surtout, après, ce qui m'a été reproché, et ça c'est plus étrange, c'est finalement de divulguer, de raconter les coulisses de l'hôpital. Et je me suis rendu compte qu'il reste encore une tradition du secret à l'hôpital qui est gardée par les médecins. Et pour l'anecdote, un jour j'ai reçu un mail d'un doyen d'université qui me reprochait cela, en me disant notamment que les mandarins, ça n'existait plus, etc. Et le mail était en copie à deux de ses fils, eux-mêmes, chefs de service à l'hôpital.
Et vous, votre père était médecin?
Mon père était médecin, mais mon père était un médecin libéral. Donc j'ai jamais, pas comme Benjamin, été sous ses ordres.
Oui, c'est ça, parce que l'histoire de Benjamin, c'est qu'il va dans le service de son père.
De son père,
ouais. Il va faire un internat
service. Ce qui existe quand même.
Ça existe, c'est vrai.
Ça existe
quand même.
Ça m'a été reproché. On m'a dit ça n'existe pas, c'est impossible.
Ça m'a paru étonnant.
Mais non, c'est un cas particulier, mais ça existe et moi je l'ai connu.
Voilà.
Ouais, Judée, par exemple.
vous venez de l'évoquer, Thomas Lilti, dans ce film, vous parlez du cas d'une personne âgée avec un cancer en phase terminale, une fracture du bassin. Elle est réanimée alors qu'il faudrait absolument pas. Vous évoquez aussi cette question de la fin de vie au cœur de l'actualité en ce moment avec l'affaire Vincent Lambert qui passe devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça aussi, c'est important d'en parler. C'est quelque chose auquel sont confrontés les médecins qui est compliqué.
C'est plus qu'important parce qu'en fait, c'est moi le souvenir que j'en ai et je crois que le docteur Siossi ne va pas me contredire, c'est que c'est le quotidien de l'hôpital public. Il y a des personnes aujourd'hui très âgées qu'on ne peut pas réanimer, qu'il ne faut pas réanimer. Et comme on a parfois des grandes difficultés à les mettre dans des structures autres que l'hôpital, on se retrouve au quotidien confronté à cette problématique du maintien, de la fin de vie, de l'acharnement thérapeutique, où se situe la frontière, et c'est quelque chose de très complexe.
Mais aujourd'hui, dans les hôpitaux, Magid Siossi, on réanimerait comme ça, effectivement, ça peut arriver qu'on réanime une vieille dame.
Non, c'est une vraie exception, c'est une erreur.
Alors, il faut dire qu'en quelques années, il y a eu une révolution extraordinaire dans les mentalités, et qu'aujourd'hui, on est beaucoup, de plus en plus soucieux de cette question-là, d'indiquer que, enfin, ça devient même...
Pas d'acharnement thérapeutique.
Le NPR, on dit, ouais, c'est un malade NPR.
NPR.
Non, à ne pas pas réanimer.
À ne pas réanimer. Ah, ce qui est écrit sur la feuille.
Donc c'est devenu quelque chose, c'est une préoccupation. On se préoccupe de le signaler dans le dossier pour éviter ce genre de gag. Ça peut arriver malheureusement quelques fois, mais c'est vite corrigé. Mais il est vrai que la question de chaque matin, moi je sais que chaque matin je travaille dans une unité de gériatrie aiguë, chaque matin on se pose la question de savoir jusqu'où on va pour tel ou tel patient. Et on doit décider si on doit faire plus avant ou stopper.
Un quart, je voudrais qu'on parle des médecins à diplôme étranger. Là. Un quart des nouveaux médecins chaque année en France sont titulaires d'un diplôme acquis à l'étranger. Moi, je vous avoue que je n'avais pas ce chiffre-là en tête. C'est les derniers chiffres du Conseil de l'Ordre des médecins. Ça pose quand même un problème de fuite des cerveaux, parce que ça veut dire que tous ces médecins ont été intégralement formés ailleurs, dont le coût de la formation est énorme.
Oui, effectivement, il y a un problème moral de fuite des cerveaux, même si on peut pas reprocher aux gens de chercher une vie meilleure. Il y a surtout une question que devraient se poser les pays d'origine, qui ne leur donnent pas une vraie place, qui les forment, qui dépensent beaucoup d'argent pour les former et qui ne leur offrent pas une vraie place. Il y a aussi une question que pourraient se poser les autorités françaises, puisqu'on dépense des sommes énormes dans la coopération. Et là, à mon sens, il y a des politiques de coopération intelligentes à avancer, avec par exemple des parrainages dans les pays d'origine pour encourager le retour de ceux qu'ils souhaitent dans ces pays en leur garantissant des conditions de vie, des conditions de formation et des conditions possibles d'aller-retour. Là, on pourrait réfléchir sur ces questions. On pourrait aussi utiliser ces médecins qui connaissent bien les pays d'origine pour faire de la formation. Ce que je fais, oui, soit modestement, avec du retour d'expérience dans les pays d'origine. Ça, c'est un champ très intéressant à explorer. Du tout envisagé, d'ailleurs.
D'accord. Merci. Thomas Lilti, c'est quoi votre prochain film?
Eh ben justement, ça parle des déserts médicaux. C'est l'histoire d'un médecin de campagne. Voilà, pour faire très simple.
Vous en êtes à quelle phase? Vous en êtes
Début du tournage dans moins de 4 semaines.
Et qui devrait sortir quand?
Et qui sortira certainement au printemps ou à l'automne 2016.
Et dans tout ça, vous continuez quand même à être médecin alors ou pas?
Là, c'est un peu compliqué parce que là, les choses s'enchaînent pour moi avec le. C'est vrai qu'avec le succès du film, ça. Voilà, mais comme je dis comme le fait dire par Abdel, quoi, médecin, c'est pas un métier, c'est une malédiction. Donc oui, la malédiction. Moi, je la traînerai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive.
Et si on vous demande votre métier, vous répondez quoi?
Médecin, bien sûr.
Pas cinéaste. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Je vous rappelle, oui, non, je ne vous l'ai pas dit, qu'on fait gagner. Vous êtes venus avec 4 DVD du film Hippocrate à faire gagner. Alors, sur Facebook, tout simplement, vous y allez. Vous invitez des amis à participer à ce tirage au sort. On se retrouve demain avec le docteur Catherine Solano qui répondra à toutes vos questions. À demain.